Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Je te demande que cette vérité, Seigneur, nous exhorte, nous libère, nous conduit, Seigneur. Merci, Seigneur, que ma bouche soit à toi, Seigneur, que ce soit toi qui parles, Seigneur, et non pas moi. Amen. On va continuer avec ce qui a été dit la semaine dernière. On parlait de Isaac. On va continuer avec Isaac. Vous savez ce que ça veut dire, Isaac ? Israq. Ça veut dire le rire. Sa naissance était tellement extraordinaire qu'elle a fait rire tout le monde. Commencer par Sarah, sa mère. Abraham aussi a rigolé, tellement c'était pas possible. Une mémé qui accouche d'un enfant. Miracle, naissance miraculeuse. Et bien sûr, on va continuer dans la vie d'Isaac. Je vous montrerai que Isaac a une place particulière parmi les patriarches. Je vous montrerai la différence parce que Isaac est une figure prophétique en fait dans la Bible. Vous savez que dans l'Ancien Testament, dans l'Alliance ancienne, il y a des images du Messie, beaucoup d'images du Messie. Et Isaac en est une. Alors on va lire dans Genèse 24. C'est le premier livre, Genèse 24. Et c'est l'histoire du mariage d'Isaac. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les Cananéens, au milieu dequel j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Et Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, « Je te donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et il jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nahor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits. Au temps du soir, dans la soirée donc, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur, Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fille de Milca, femme de Nahor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille, très belle de figure, et elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-sicle et deux bracelets du poids de 10 cycles d'or, et il dit « De qui es-tu la fille ? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nahor. » Et elle lui dit encore « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Et je m'arrête là, Rebecca avait un frère, etc. On verra après ce qui se passe. Premier passage, c'est dense. Il y a beaucoup de choses. Je vous l'ai déjà dit, quelles étaient les qualités de Rivka, de Rebecca, pardon. Ça s'appelle Rivka en hébreu. Hein, donc, la qualité de cette jeune fille. Déjà, elle était très jeune. Vous ne voyez pas les... pour vous donner un ordre d'idée, elle devait avoir 15 ans. 15 ans, et Isaac, à cette époque-là, avait 40 ans. C'est l'Orient. Mais à cette époque-là, c'était courant. Hein. C'était courant que les filles devaient être jeunes. Donc, elle était jeune. Elle était belle, même très belle, comme dit la Bible. On dirait une oulala. Une très belle. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois la Bible, elle est un peu lourde, dans le sens qu'elle était vierge. Bon, tout le monde sait ce que ça veut dire être vierge. Mais qu'en plus, qu'aucun homme ne l'avait connue. Deux fois. Bah oui, si, connaître en hébreu, c'est avoir une relation sexuelle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relation sexuelle. Ben, pourquoi tu le dis deux fois ? Ben, tout simplement, c'est qu'elle était vierge physiquement, mais elle était vierge spirituellement, c'est-à-dire elle n'avait aucune attache, parce qu'on peut fréquenter des petits garçons, des petits copains, boyfriend. Non, elle était parfaitement vierge, aussi bien corps, âme, esprit. Ce qui était important dans la culture de la Bible, et ce qui est important pour nous aussi, que l'on perd maintenant dans notre culture, la virginité est quelque chose de très important. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, qu'est-ce qu'elle avait de particulière, cette fille ? Elle était un petit peu courageuse quand même, hein ? Un petit peu beaucoup. Parce que, bon, comme ça, le signe que le serviteur est Eliezer, et c'est Eliezer, c'est pas dit dans la Bible, mais on sait que le serviteur d'Abraham, qui avait l'intendance de tous ses biens, s'appelait Eliezer, et c'était lui qui devait hériter d'Abraham, si Abraham n'avait pas eu de fils, puisqu'il a dit à Dieu un moment, ben, j'ai pas de fils, ta promesse elle est bien, je donnerai mes biens à Eliezer, mon serviteur, etc., etc. C'était lui, normalement, qui aurait dû hériter des biens d'Abraham. Sauf qu'il y a eu Ismaël déjà, bon ça s'est pas bien passé, et après il y a eu Israël, l'enfant du miracle qui a fait rire tout le monde. Et Eliezer, il fait une prière, elle n'est pas anodine la prière, hein. C'est pas dit donne-moi un petit signe, c'est dire si la fille elle me dit aussi je donnerai de l'eau à tes chameaux, c'est elle, et pour cause, 10 chameaux, que multiplie 130 litres. Ça fait combien de litres ? 1300 litres à boire. 1300 litres, ça fait une tonne 3. Avec une petite cruche de 15 kilos, de 15 litres, hein, parce que les cruches à l'époque, elles faisaient 15 litres, puisqu'elles étaient quand même en terre cuite, donc ça pesait lourd. Vous imaginez, 100 fois aller puiser, une centaine de fois. Moi, je ne sais pas, je serais Rebecca, je lui dirais, bah, écoute, je te donne ton chameau, je te donne à toi ton chameau, puis tu as quand même quelques serviteurs là, qui ne foutent rien. Là. Tu peux leur dire de venir m'aider un peu ? Et non, ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible. Elle dit qu'elle s'empressa, elle s'empressa de le faire, et elle le fit jusqu'au bout. Il n'est pas dit, tiens, attends, laisse tomber, là, attends. Il y a mes serviteurs, ils vont venir t'aider, parce que c'est trop pour toi. Il aurait pu, hein. Il me dit, c'est macho, hein, quand même. La petite jeune fille, elle a 15 ans. Non. Ben, elle s'est coltinée les sans aller-retour pour remplir l'abreuvoir. Puis un chameau, ça boit vite. Hein. Les 130 litres, c'est en un quart d'heure. Par chameau. Parce que le chameau, bah, il a fait la traversée du désert de Syrie, ou de Jordanie, je ne sais pas, et est arrivé en Mésopotamie. Il a quand même eu beaucoup de désert, donc il n'a pas bu beaucoup pendant ce temps-là. Donc ils avaient soif, et ce qui est étonnant, c'est que la Bible dit, jusqu'à ce que tes chameaux soient abreuvés, quoi. C'est pas, je te donne un peu d'aboire à tes chameaux, c'est pas, je te donne 20 litres, et puis c'est tout, quoi. C'est, je vais jusqu'au bout. Et donc, le serviteur reconnaît que c'est Rebecca, la femme qui est destinée à Isaac. Et là, bon, il y a toute la tractation, je vous en fais grâce, commerciale entre les parents, le frère de Rebecca et puis le serviteur Eliezer. Et on va aller plus loin. Donc, le serviteur, il explique à la famille, bah, écoutez, je suis venu ici, je suis serviteur d'Abraham, je viens chercher une femme pour son fils Isaac. J'ai demandé un signe à l'Éternel, il m'a dit, voilà, j'ai donné le signe, et votre sœur, Rebecca, a parfaitement correspondu à ces signes, puisqu'elle a fait exactement ce que j'avais demandé au Seigneur. Et donc, eux, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent dire ? Si cela vient de l'Éternel, forcément, on ne va pas s'y opposer. Forcément. Mais enfin, bon, on va quand même négocier. Hein. On va quand même négocier. Mais on ne s'y opposera pas. Donc, on continue un petit peu plus loin. Alors, pourquoi je vous raconte ça ? Parce que vous la connaissez tous, cette histoire-là, plus ou moins. Je vous ai dit qu'Isaac était une figure du Messie. Et dans cette histoire-là, il y a quatre personnages. Il y a quatre. Il y a d'un côté Abraham. Abraham qui est le père de toutes les nations, on va dire, le père qui est vraiment à la fois celui qui est le père de la promesse pour tous les croyants. Mais il est quelque part l'image de Dieu, c'est-à-dire du Père, l'image du Père. Mais plus que ça, l'image du Père qui a aimé son fils. Il était vieux, Abraham. Hein. D'ailleurs, c'est les dernières histoires d'Abraham, c'est ça. Hein. C'est quand il veut marier son fils, c'est la dernière action d'Abraham, c'est celle-là. Il est vieux, mais il aime son fils. Abraham, c'est le père. Eliezer, c'est qui ? C'est le serviteur. Quel est le rôle d'Eliezer ? C'est d'aller chercher une épouse pour son fils. Eliezer, ça veut dire Dieu est mon secours ou Dieu m'a secouru. C'est celui qui nous secourt. C'est celui qui nous aide. Eliezer, si vous voulez savoir, vous l'avez dans Jean 16. On peut lire dans Jean 16 ? On va revenir dans le Nouveau Testament. Au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il prend ce qui est à moi et vous l'annoncera. Eliezer est une image de l'Esprit Saint. Il va chercher une épouse pour son fils, pour le fils du Père. Pas le fils d'Eliezer, le fils du Père. Et le troisième personnage, bien sûr, c'est Israk. Alors pourquoi je dis Israk est une image du Messie? Il a quand même été sur l'autel, failli être sacrifié par son père Abraham. Il ne faut pas l'oublier quand même, c'est un petit détail, mais ça laisse des traces quand même. Et quelque part, dans la Genèse, il dit qu'il n'y a pas eu de sacrifice, que l'ange est intervenu avant que Abraham l'égorge. Mais quand vous regardez dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, il a dit que c'est par la foi qu'Abraham sacrifia son fils et qu'il espéra, son fils est passé par une sorte de résurrection, vous le lirez dans les héros de la foi, dans une sorte de résurrection. Donc dans l'Épître aux Hébreux, quasiment, on peut sous-comprendre que Isaac a été sacrifié et il est ressuscité. C'est l'image de ce que Dieu a fait en Yeshua, c'est-à-dire il a sacrifié son fils au même endroit quasiment et il l'a ressuscité des morts. Jésus, Israk. C'est une similitude. Quand je dis c'est une image du Messie, c'est plus qu'une image du Messie. On connaît le sacrifice d'Abraham, c'est ce que Dieu a fait complètement après. Une chose particulière, je vais faire des comparaisons entre les patriarches. Les patriarches, vous savez, il y en a quatre. Il y a Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Après, c'est les quatre premiers qui sont l'origine du peuple d'Israël. Isaac, c'est le premier, on va dire Sabra, c'est le premier qui est né sur la terre d'Israël. Abraham n'est pas né sur la terre d'Israël, il vient de Mésopotamie. Isaac a été le premier-né sur la terre. Et il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il avait interdiction par Dieu de quitter la terre d'Israël, de Canaan. Elle s'appelait Canaan à cette époque-là, mais de quitter cette terre. Plusieurs fois, il a été tenté. À un moment, il a été tenté d'aller en Égypte quand il y a eu la famine. Il s'est fait arrêter à Guérar. Il s'est fait arrêter par Dieu en disant « Non, tu ne quitteras pas la terre d'Israël. Tu resteras parmi eux, mais tu n'iras pas au-delà. » Là, le serviteur a dit « Tu as qu'à emmener ton fils chercher une épouse. » Il a dit « Non, garde-toi d'emmener mon fils hors du pays. » Car c'est la promesse, c'est-à-dire il faut que le Messie, l'image du Messie reste sur la terre d'Israël. Je pourrais faire une comparaison. Jésus, est-ce qu'il a quitté la terre d'Israël? Il est allé à Washington prêcher? Non. Ça n'existait pas. Mais non. Il n'a pas quitté, il a été un peu dans les pays aux alentours, mais c'est quand même la terre d'Israël biblique, même si ce n'était pas le territoire d'Israël à l'époque où Jésus était là. Mais il n'a pas quitté la terre d'Israël, Jésus. Et il y a une chose qu'il faut que vous compreniez. J'espère que vous attendez le Messie, le retour du Messie. Il était impossible jusqu'à aujourd'hui que le Messie revienne si Israël n'était pas ressuscité en tant que nation et en tant que terre. Ce qui nous rapproche de la temps des fins, justement, c'est que vous avez sous les yeux maintenant la terre d'Israël qui revit, qui ressuscite. Et vous pouvez dire, bah, le figuier reverdit. Le figuier est une image du Messie aussi. Et que les temps sont proches. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que Isaac, qui distingue Isaac des autres patriarches? C'était un homme de paix. On l'a vu la dernière fois dans la prédication de Vincent. C'est quand on lui bouchait un puits, il n'allait pas lever une armée pour aller trucider tous ceux qui lui avaient bouché le puits. Soit ils le débouchaient, soit ils allaient en refaire un autre ailleurs. Mais il n'a jamais vraiment combattu. Abraham a combattu. Il a combattu les rois de Sodome, et tous ceux qui avaient pillé Sodome, il les avait combattus. C'était un guerrier, Abraham. C'était gentil. C'est pas le père des nations, mais bon, quand vous lisez ce qu'il a fait, il ne fallait pas le chatouiller non plus, trop près, quoi. Isaac, lui, on pourrait dire maintenant, c'est un mou. C'est donc on le chatouillait, bah, il s'en allait, il allait ailleurs. Il ne cherchait pas la confrontation. Si un ennemi lui disait de faire 1 000 avec lui, il en faisait 2 000 avec. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Après, je n'ai pas dit qu'il non plus il tendait l'autre joue. Hein. Mais c'est un homme de paix. Troisième chose qui le distingue des autres patriarches, et pas la moindre, il n'a eu qu'une seule femme. Rivka. Il n'a pas été faire des intercades à droite à gauche. Abraham, il a quand même eu 4 femmes. Enfin, 3 femmes, non, plutôt 3 femmes officielles et quelques concubines avec un S. C'est écrit comme ça. Si vous lisez la fin de la vie d'Abraham, bon, il a eu Sarai, sa vraie femme. Agar, vous savez pourquoi? Ketura, c'était sa dernière femme quand Sarah est morte, il s'est remarié avec Ketura, qui a fait les Madians et tous les peuples aux alentours. Et il a dit qu'à la fin, quand il mourut, il donna tous ses biens à Isaac, qu'il a envoyé tous les fils de ses autres femmes et de ses concubines loin d'Isaac vers l'Orient. Mais il leur donnait un peu d'argent aussi pour qu'ils... Voilà, hein, quand même. Hein, voilà. C'était quand même ses enfants. Mais Abraham avait plusieurs femmes. Je ne vous parle pas de Jacob. Il en avait 4 officielles. Yosef, on ne sait pas trop. Il en avait au moins une. Mais voilà, Isaac. Mais Yosef, il en avait peut-être qu'une aussi. Parce que c'est aussi une image du Messie. Voilà ce qui distingue Isaac. Une seule femme, une seule épouse, un seul pays, un homme de paix qui a été sacrifié aussi. Donc voilà, la similitude, elle est très claire. Troisième personnage, et non des moindres, c'est Rivka, Rebecca. Parce qu'on lit l'histoire, bon, alors effectivement, je vous ai expliqué l'histoire du puits, les 1300 litres à puiser, mais ça, c'est un détail. On va lire la suite de Genèse 24. On retourne à Genèse 24. Donc, du coup, il y a les tractations qui se font avec la famille. C'est intéressant à lire, hein, c'est amusant. Je continue. Donc il explique ce qu'il a fait, que Dieu, il a prêté serment, que Dieu a envoyé son ange, qu'il a fait réussir son voyage. Voilà, que la jeune fille, voilà, il explique exactement ce qui est arrivé. Et je descends, je continue. Voilà. Ils passèrent la nuit, donc, mangèrent et burent, puis ils passèrent la nuit. Et au verset 54, il est dit, « Après quoi ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, ils passèrent la nuit le matin, et quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur, le frère et la mère de Rebecca et le frère de Rebecca, donc Lavan, dit que la jeune fille reste encore avec nous quelque temps, encore une dizaine de jours. » Ensuite, tu partiras. Donc, il voulait retenir le serviteur. C'est connu, puisque Lavan, il a fait la même chose avec Jacob. C'est, force de rester, il est resté 14 ans. Il répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir, que j'aille vers mon Seigneur. Alors, ils répondirent, bah, tu peux y aller, mais... Non, ce n'est pas ça qu'il dit. Une chose importante avant. Quelque chose qui est complètement extraordinaire. Pour l'époque. Ben, c'était juste impossible à cette époque-là. Remettez-vous dans le contexte, il faut toujours se remettre dans le contexte de l'époque. C'est demander l'avis de la jeune fille. À ce moment-là, on mariait les jeunes filles, on ne leur demandait pas leur avis. Hein. Et il dit, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appellèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Et elle répondit, quoi? Yalar, j'irai. Elle n'est pas bavarde. Hein. Yalar, allez-y, on y va. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, mais ils lui donnèrent quand même sa nourrice et quelques servantes avec le serviteur d'Abraham. Si tu veux rencontrer le Messie, si tu veux épouser le Messie, alors tu fais comme Abraham. Tu quittes ton pays, la maison de ton père, et tu iras vers le pays que je te montrerai. Donc c'est Eliezer qui l'emmène. Un pays que tu ne connais pas, vers quelqu'un que tu ne connais pas. Tu abandonnes tout, ta vie passée. Je pense que Rivka, elle avait des amis. Elle avait une vie là-bas. Enfin, elle était pas. Je ne pense pas qu'elle était cloîtrée dans sa maison. Elle avait peut-être des copines. Peut-être, voilà. Et du jour au lendemain, je monte sur un chameau avec un vieux. Il faut dire ce qu'il est. Parce que Eliezer, il ne devait pas être de première jeunesse non plus. Pour aller se marier dans un autre pays. Avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Mettez-vous à sa place quand même. Ça s'appelle comment? Dans la Bible, dans le Nouveau Testament. C'est mourir à soi-même. Elle aurait pu continuer sa petite vie tranquille, trouver quelqu'un là-bas. Non, à part, elle saute dans l'inconnu. Sachez que Rebecca, c'est la deuxième personne après Abraham, à avoir fait ça, bon, il y a Abraham et sa famille, mais à quitter la maison de son père et à aller vers l'inconnu. C'est l'image de l'épouse, renoncer à soi-même. Et c'est un acte volontaire. Elle n'a pas été forcée de le faire. Elle aurait pu dire, ah non, 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 je reste là. Elle aurait pu. Elle aurait pu dire, oh non, attends, ça craint. Je sais pas où je le connais pas Isaac, moi. Je ne connais pas Abraham. On est mieux ici, il y a de la source et tout, il y a de l'eau, il y a des concombres et tout. Tout va bien. Elle aurait pu le faire. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on lui a laissé le choix. Le choix de choisir, est-ce que tu veux te marier avec Isaac ou est-ce que tu veux rester avec nous ? Elle a choisi, elle a juste dit « Yalar, j'irai, j'irai, où que j'aille Seigneur, j'irai, où que tu ailles, j'irai. » Renoncer à soi-même. Alors ça, c'est à mettre en parallèle avec, vous savez, le texte qui dit « Celui qui me suit, celui qui veut être mon disciple et qui regarde en arrière n'est pas digne d'être mon disciple. Celui qui ne hait pas son père et sa mère, ses frères, ses sœurs et qui sa vie n'est pas digne d'être mon disciple. » Quelque part, Rebecca, elle a tiré un trait sur sa jeunesse. Bon, elle avait quand même sa nourrice avec elle, mais elle a quand même tiré un trait sur sa jeunesse en disant, ben voilà, moi j'étais Rebecca, fille de Bethuel, je vais devenir Rebecca, femme d'Isaac. C'est quelque chose. Et là, on va lire la suite. Donc, Rebecca se leva, c'est au verset 20-61. Avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de l'Ahai Roï et il habitait dans le pays du Midi. Vous connaissez le puits de l'Ahai Roï ? Vous savez ce qui s'est passé dans ce puits-là ? Parce qu'à chaque puits, il s'est passé quelque chose. De toute façon, c'est une histoire de puits. Hein. L'Ahai Roï, ça veut dire le vivant me voit, qui me voit. C'est le puits du vivant qui me voit. Ben, c'est tout simplement le puits où Agar a failli mourir de soif et que quand elle a été chassée avec Ismaël, elle a failli mourir de soif et c'est là que l'Éternel lui a apparu en disant bah voilà, Ismaël sera une multitude de nations aussi, qui sera voilà. Elle reçoit les promesses de Dieu aussi, Agar. Attention, Agar n'a pas été rejeté. Hein. Ismaël n'a pas été rejeté, il fait partie aussi des promesses quelque part. Mais il y a eu ce puits, c'était à ce puits, l'Ahai Roï, le vivant qui me voit, qui a vu ma détresse, qui a vu ma soif. Et c'est dans ce puits-là que Isaac se trouve. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il médite. Hein. Ça me rappelle quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faisait le soir, Jésus ? Il allait sur la montagne, il priait. Méditer, là, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais ça peut être aussi prier dans les champs. Il leva les yeux et regarda, voici des chameaux arriver. Et Rebecca leva les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Alors là, il y a petite erreur de traduction chez Second. Elle ne descendait pas de son chameau. Si vous avez les Strong, elle tomba de son chameau. Masse. Le choc. Elle est tombée dans le sens, c'est pas un accident, elle n'est pas tombée à la renverse. Elle tomba face contre terre de son chameau. Alors, les sages d'Israël disent, dans ce commentaire, disent qu'Isaac était tellement beau. Enfin, par rapport à ce qu'il s'imaginait, elle s'imaginait d'avoir un vieux aussi. Et elle s'est retrouvée avec quelqu'un de beau. Et elle tomba à l'envers, dans le sens... elle tomba, quoi. Elle fonda. Et, à me dire, c'est une interprétation, hein, mais elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ? On peut le lire dans le psaume 45 ? Je vais vous lire quelque chose dans le psaume 45. au verset 3. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours, vaillant guerrier saint en épée. Ta parure et ta gloire, oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. On peut tout lire le psaume, hein. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, donc il est clair qu'il est parlé du Messie. Il est marqué, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint, ta Messie, d'une huile de joie en privilège sur tes collègues. Et un tout petit peu au verset 11, écoute ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton seigneur, en lui tes hommages. D'un côté, il y a le Messie, de l'autre côté, il y a l'épouse. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. C'est ce qu'a fait Rebecca. Elle a oublié son peuple et la maison de ton père. Le roi, donc là, c'est le Messie vraiment régnant. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que l'épouse, je vais l'appeler comme ça maintenant, je ne vais plus l'appeler Rebecca, l'épouse a quitté la maison de son père. D'ailleurs, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle a été bénie par sa famille avant de quitter. Et cette bénédiction, c'est la même bénédiction que celle que Abraham a reçue. Alors vous pouvez le lire dans Genèse, la bénédiction d'Abraham, c'est dans Genèse 22, 12. Et la bénédiction de Rivka, c'est dans Genèse 24. Je redescends vers le 60 et des... Au verset 60, il y a une bénédiction. Ils bénirent Rebecca et lui dire, « Oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de tes ennemis, de ses ennemis. » C'est dit la même chose à Abraham, quand Dieu a béni Abraham, il dit que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Ça ne vous rappelle pas un passage du Nouveau Testament, ça ? Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Quand il dit tu es Pierre, ça n'a rien à voir avec l'apôtre. Hein. C'est sur cette pierre, c'est sur la pierre de la révélation du Saint-Esprit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ta postérité possède la porte de tes ennemis. C'est l'épouse. Ni plus ni moins, c'est l'image de l'épouse. Isaac est l'image du Messie, Rivka est l'image de l'épouse. L'épouse qui est appelée par le Saint-Esprit dans un pays étranger et qui la ramène. Et je pense que pendant les plusieurs semaines où ils ont traversé le désert, je pense que Eliezer a dû parler pas mal de Isaac et d'Abraham. C'était une femme qui n'avait pas peur aux promesses. Hein. Elle était restée en Mésopotamie. Elle ne connaissait pas ce qui s'était passé avec Abraham, les promesses qui avaient été faites. Le sacrifice d'Isaac, je ne sais pas si elle en avait entendu parler. Et là, elle voit au psaume 45, le plus beau des fils de l'homme. Je pourrais aller aussi dans le Cantique des Cantiques. C'est la voix de mon bien-aimé qui crie, qui saute, bondit les montagnes et tout ça. Et là, elle le voit arriver dans les champs et elle tombe. C'était un tombeur quand même, Isaac. Hein, quand même. On va dire ça comme ça. C'était l'image de la rencontre de l'épouse et du Messie. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Rebecca, tout de suite? Elle demande, est-ce que c'est Isaac? Bien sûr que c'est Isaac. Hein. Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes ces choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans sa tente, dans la tente de Sarah, sa mère, et il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Rare aussi dans les patriarches, notamment Abraham et Sarah. Il n'est jamais dit que Abraham aima Sarah. On suppose, mais ce n'est pas écrit. C'est la seule fois où Isaac, un homme, aime sa femme. Il y a une autre fois où c'est fait, c'est Jacob et Rachel. Jacob aima Rachel, il n'aimait pas Léa, hein, ni les autres servantes d'ailleurs. Mais là, il est marqué, il l'aima. Et c'est vraiment la relation que le Messie a avec l'épouse. Quand Rebecca tomba de son chameau, on pourrait penser aux deux images du Messie, c'est-à-dire, vous savez, bon là je vous ai lu le psaume 45 qui disait « Tu es le plus beau des fils de l'homme », etc., etc. Par contre, vous allez me dire « Oui, mais t'es gentil, mais Ésaïe 53, c'est pas ce qu'il dit. » Ésaïe 53, il dit qu'il n'avait ni éclat, ni beauté, qu'il était même défiguré tellement il avait été frappé, qu'il était objet d'horreur, quoi. Donc c'était pas vraiment le Jésus terrestre. C'était pas vraiment le beau gars, quoi. Et donc, et là, il dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. Le plus beau, hein, c'est pas là, tu es beau, c'est tu es le plus beau. T'es le meilleur. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut le lire dans Apocalypse 1. Il y en a un qui a pu faire la comparaison entre les deux. C'est l'apôtre Jean. Pourquoi il a pu faire la comparaison? Parce qu'il a vu Jésus sur la croix. C'est lui qui était sur le sein de Jésus quand il a pris le repas. C'était celui que Jésus aimait, le disciple. On va dire le petit favori, quoi. S'il avait des favoris, je ne sais pas. Hein, mais disons que Jean était quand même l'apôtre que Jésus aimait, quoi. Et au verset 1.13, il est dit « Au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, qui ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles, de la bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil. » Lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il posa sa main sur moi, sa main droite, en disant, ne crains point, je suis le dernier, le premier et le dernier, le vivant, et j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il n'y a pas que Rebecca qui est tombée de son chameau. Il y a Jean aussi qui est tombé par terre, face contre terre, quand il a vu le Messie dans sa gloire. Ah, il était loin du petit Jésus. Il était loin du petit Jésus sur la croix ou dans sa crèche. C'était le Jésus glorieux. Voilà ce que je voulais partager. Est-ce que vous voulez être l'épouse du Messie? C'est là où je veux en venir, en fait. C'est pas vous raconter des belles histoires. Est-ce que vous voulez être l'épouse du Messie? Il va vous falloir du courage. Moi, je ne vous demande pas d'aller puiser 1300 litres d'eau. Mais par contre, simplement de suivre le Saint-Esprit. De suivre Eliezer, qui, lui, nous enseigne, nous parle uniquement du Messie. Le Consolateur, il ne parle pas de lui-même, hein, c'est ce qui est dit dans Jean. Il nous conduit dans la justice, il nous convainc de péché et de jugement. Il nous conduit dans la justice, il nous fait oublier la maison de notre Père et il nous parle de Jésus, de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de la rédemption, de l'œuvre de la sanctification. Vous savez, le fait de quitter la maison de son père et d'aller vers un pays que tu connais pas, c'est de la sanctification, ça. Sanctification, ça veut dire quoi ? Se séparer d'eux, quelque part. D'être mis à part. De se séparer. On ne peut pas dire « je suis disciple de Jésus » et de continuer à vivre dans la maison de son père. Si tu n'es pas séparé d'eux, tu n'es pas sanctifié. Il va falloir te séparer de ton ancienne vie pour vivre avec Isaac, pour vivre dans un pays que tu ne connais pas. Sachez que le trajet entre la Mésopotamie et là où se trouvait Isaac, en terre d'Israël, ça ne se faisait pas en TGV en 3h30. Hein. C'était plusieurs semaines dans le désert où tu pouvais te faire attaquer par les brigands. Parce que bon, les routes n'étaient pas sûres non plus. C'est vraiment l'aventure. C'est le désert et l'aventure. Et quand vous regardez la vie chrétienne, c'est le désert et l'aventure. Sauf, qui c'est qui est avec nous ? Eliezer, l'Esprit Saint qui est avec nous, qui nous conduit. C'est lui qui nous conduit. Rivka, elle n'a pas pris un chameau, elle a dit ah, je sais où il habite, j'y vais. Elle est partie toute seule. Elle est partie avec Eliezer, elle est partie avec l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint l'a carrément conduit au puits de la Rai Roi. Le vivant qui me voit. Renoncer à soi-même. Luc 14, vous connaissez le passage. Verset 26, je l'ai lu tout à l'heure, mais bon, je le dis. Si quelqu'un vient à moi, il ne hait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple, mon élève. Mon disciple, c'est mon élève. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel qui veut bâtir une tour ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. Ou quel roi qui va faire la guerre à un autre roi ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut pas, tandis que l'autre roi est encore au loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Renoncez à soi-même. Soyez comme des Rebecca. Tout simplement. Relisez le texte. Relisez le texte. Et vous savez que l'évangile, en fait, c'est une histoire de mariage. Ça se finit par les noces de l'agneau. Vous avez plein de paraboles qui parlent des noces. Si vous croyez que Jésus est le Messie, vous êtes invité aux noces. Mais vous savez, dans les faire-part de mariage, vous recevez le faire-part, un tel, il se marie avec un tel, ouais, super. Vous êtes invité à la cérémonie, super. Vous êtes invité au repas, ah super, on va aller au resto, c'est mieux. Repas des noces. Par contre, il y a un petit alinéa en bas. Merci de confirmer votre présence, de nous confirmer votre présence. Hélas, beaucoup de chrétiens, ouais, on est invité aux noces, mais j'ai oublié de confirmer. Le jour où tu y vas, Ah, on te connaît, mais bon, sauf que t'as pas répondu. T'as pas dit j'irai. T'as pas dit yalar. Il faut que tu dises j'irai. Et non plus que tu le dises, mais plus encore que tu le fasses. C'est pas le tout de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent oh, ouais, j'irai, j'irai. J'irai demain, comme ce que vous voulez faire. La famille, non, mais garde la jeune fille pendant 10 jours, là, elle te rejoindra. S'ils avaient écouté ça, je pense qu'elle ne serait jamais venue, parce qu'ils l'auraient retenue. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, répondez à son appel. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, c'est aujourd'hui qu'il faut y aller. C'est aujourd'hui qu'il faut dire j'irai. C'est aujourd'hui qu'il faut se lancer dans l'aventure. Et se lancer dans l'aventure, c'est renoncer à soi. Alors, moi, j'avais un problème en tant que jeune chrétien quand on disait qu'il fallait mourir à soi-même. J'avais vraiment peur de tout perdre. C'est vrai. Enfin, je sais pas, ça y a qu'à moi que ça arrive. J'avais vraiment peur de tout perdre. Ben, c'est sûr que je perdais toute ma vie ancienne, ça c'est sûr. Mais je ne voyais pas la suite. Je voyais le désert, je voyais les chameaux. Et où est-ce que ça va me mener tout ça? Bah, et Rebecca, où est-ce que ça l'a menée? Elle est arrivée, qu'est-ce qu'elle a vu? Allez, je le dis, un dieu grec ou un dieu qui vient à sa rencontre. S'attendait à un vieux, s'est trouvé devant quelqu'un d'une beauté. Alors je ne sais pas si Isaac était d'une beauté, mais dans l'image qu'elle avait, c'était mieux que ce qu'elle avait imaginé. C'était mieux que ce qu'elle avait imaginé. Et nous, pour nous, les noces de l'agneau, là pour le coup, je dis, on est à la rencontre d'un dieu, pas grec, un dieu qui est mieux que tout ce que nous pouvons imaginer dans notre esprit, quoi. C'est vraiment Dieu qui nous donne son Fils. Parce qu'il nous a donné son Fils pour nous sauver. Mais j'irai aussi, il nous a donné son Fils pour nous marier. En tant que Seigneur, il nous a sauvés. Et dans Éphésiens 5, et ce sera ma conclusion, vous pouvez le lire dans Éphésiens 5, le passage que tout le monde aime. Au verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ, comme le Messie est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça plaît bien au mari, ça. Hein. C'est bon, ça. Ça fait du bien. Je m'arrête là? Non, continue. Mince. Marie, aimez vos femmes, comme Christ, comme le Messie, a aimé l'épouse et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. On pourrait dire vierge. Dans le sens où Rebecca était, vous avez, c'était un peu lourd, deux fois vierge. Là, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, ni sainte. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et prend soin comme le Messie le fait pour l'épouse, car nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère, parle de mystère, et grand, je dis cela par rapport au Messie et à l'épouse. Voilà la finalité. La finalité, c'est un mariage. Ça va fort. La finalité de notre vie chrétienne, c'est un mariage. Un mariage, c'est la vie éternelle aussi. La vie éternelle, c'est quoi? C'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Qui, d'une épouse, peut connaître mieux son mari? C'est un mariage. Et dans l'Apocalypse 22, il est dit, et c'est la conclusion de la Bible aussi, au verset 17, il est dit quoi? Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse disent, viens. Et à la fin, il dit, la conclusion, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Et je dis Amen. Des exemples, des passages des fois que l'on lit, comme ça, vite fait, mais on ne se pose pas vraiment les questions approfondies pour savoir qu'est-ce que ça a réellement coûté aux personnes qui ont vécu ces histoires. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité, ta parole nous donne des figures prophétiques, des figures de ce que tu vas faire maintenant, ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras avec le Messie Seigneur, ton fils Jésus. Merci Seigneur de nous sanctifier, que ce ne soit pas un giret du bout des lèvres, mais que ce soit un giret corps, âme et esprit, Seigneur, de toute ma force, de toute ma pensée. Oui, Seigneur, quand tu appelais tes disciples, tu disais « viens » et ils abandonnèrent tout, les filets, les femmes, les enfants, les parents, et ils te suivirent pendant 3 ans, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, non pas des auditeurs oublieux, des auditeurs qui veulent le Messie, mais qui veulent aussi les bénédictions de ce monde, qui veulent aussi ne pas abandonner la maison de leur père et leur pays, Seigneur, leur culture, mais qui veulent bénéficier des deux, Seigneur. Non, Seigneur, le prix à payer, c'est toi et toi seul. Merci de nous sanctifier, Seigneur. Que nous ayons les regards, comme il est dit dans ta parole, Rebecca leva les yeux et elle tomba de son chameau. Que nous levions les yeux vers le Messie et que nous tombions face contre terre, Seigneur, en disant « Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur des armées. » Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous conduis, Seigneur, tu es celui qui nous dirige. Donne-nous d'être conséquents, Seigneur, sur l'appel que tu nous as donné. Tu nous as appelés, que nous soyons conséquents, Seigneur, dans toutes les actions de notre vie, dans le nom de Jésus le Messie. Amen.